Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Buenas noches. Gran parte de la obra literaria de Dominique Fernández, pese a lo copiosa, lo enorme que es, abarca más de 50 libros de diversos géneros, novelas, ensayos, libros de viajes. La curiosidad de viajero de Dominique Fernández ha sido incesante. Pese a todo esto, es un autor relativamente desconocido en América Latina. Pese también el hecho de que algunas de sus novelas más exitosas, han sido traducidas al español en España. Vamos a hacer un recorrido no tanto sobre la obra de Dominique Fernández, sino sobre algunos de los temas que él recorre desde sus comienzos. Hay un hecho insólito, yo diría que casi insólito, en esta conversación. Hace un año, una pareja de amigos, ella colombiana, su marido francés, me regalaron un libro de 800 páginas. Ese libro, cuyo título es Ramón, publicado por Editorial Grasset, era precisamente uno de los libros de Dominique Fernández, una biografía sobre su padre. Y aquí viene lo insólito. Su padre pertenecía, era el miembro en segunda generación de un inmigrante, un diplomático mexicano, un Ramón Fernández que llegó a París y ahí se perdió prácticamente las raíces de sus orígenes mexicanos. Dominique Fernández pertenece a una... a una tercera generación de Fernández franceses. Lo revelador en la biografía de Dominique sobre su padre, sobre Ramón Fernández, es que era prácticamente conocido este personaje fascinante. Este personaje fascinante, Ramón Fernández, había sido clave en toda la literatura francesa de principios del siglo XX, desde 1920 a 1941. Hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. Su afinidad con gran parte de los escritores franceses del momento, con Gide, con Valéry, con André Malraux, es una afinidad extraordinaria, pero no solamente eso, su obra de crítico literario. Lo que descubre Dominique Fernández en la biografía de su padre, este libro inmenso de 800 páginas, es pues a un personaje que gran parte de los latinoamericanos desconocíamos, incluyendo los mexicanos. Este es un libro revelador porque es la biografía de este gran intelectual francés de origen mexicano y a la vez la búsqueda de las raíces de Dominique. Dominique a duras penas alcanzó a conocer a su padre. Era muy niño cuando prácticamente dejó de verlo. Su padre contrae matrimonio con una institutriz educada, francesa, ilustrada. Es una relación accidentada. Todo ello lo revela, no estoy revelando infidencias, en su libro. Así que si hay una figura dominante en la vida de Dominique es la existencia de un padre, pero también la ausencia de ese padre a partir de cierto momento. Esto es más o menos lo que podría revelarles en el comienzo de esta conversación, que a mí se me antoja una conversación sobre las raíces de un escritor, las raíces perdidas de un escritor que nace bajo la sombra de un gran escritor que a su vez conoce la gloria, pero conoce a partir de cierto momento la humillación. ¿La humillación en qué sentido? Cuando se produce la ocupación alemana de Francia, Ramón Fernández toma partido por los ocupantes y se convierte en un colaborador activo de los nazis, es decir, en un incondicional del régimen nazi. Digamos que esta es la vergüenza que arrastra Dominique Fernández y lo confiesa en su libro. Vamos a hablar de esto. ¿Qué tipo de sensación se tiene cuando se presenta una figura tan dominante como esta de un padre, con ese poder extraordinario, un poder de seducción extraordinario y un gran poder de seducción intelectual también? Y enfrentarse también al hecho de que es un padre sobre el que el orgullo que se pueda sentir hacia él es un orgullo limitado por la vergüenza de cierta conducta pública. ¿Cómo asumiste el reto de escribir esta biografía?
Oui.
No sé, son les grenouilles. Sí. C'est pas les grenouilles. Ça micro.
On entend là comme ça, oui. Ah d'accord. Oui, alors moi j'ai eu un rapport très difficile avec mon père, ou avec l'image de mon père plutôt, parce que je l'ai très peu connu. Je vivais avec ma mère qui était séparée de son mari quand j'avais 5 ans, je crois. Et donc, et il est mort quand j'avais 15 ans à peine. Donc j'ai pratiquement pas connu. C'était un père absent, donc d'autant plus mythique. Mais alors, son image était très difficile pour moi à concilier parce que c'était une image contradictoire. Parce que d'une part, il y avait l'écrivain célèbre à l'époque, le grand critique, l'ami de Proust au début de sa vie et de Marguerite Duras à la fin, l'intime de Gide, de Malraux, etc., que j'admirais. Je ne comprenais pas encore ce qu'il écrivait très bien, mais quand même, je savais que c'était quelqu'un d'éminent. Et d'autre part, son engagement politique que je réprouvais, que je condamnais. Moi, j'étais gaulliste, comme la plupart des enfants, des garçons de cet âge à cette époque, pendant la guerre, pendant l'occupation. Et donc, dès cette époque, et encore maintenant, je condamne son action politique fermement. Et dans la biographie que j'ai écrite, ce n'est pas du tout une hagiographie. Je suis très sévère sur l'aspect politique. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il est passé de... pourquoi ce grand intellectuel anglophile, en plus, pas du tout germanophile, je veux dire qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'il a basculé dans la collaboration? Ça reste toujours un mystère pour moi. Mais donc, c'est très difficile. Non seulement il était absent, mais son image était contradictoire. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, en partie que je suis devenu écrivain, c'est pour essayer de résoudre ce conflit initial et fondateur, en quelque sorte.
Sí, sin embargo, usted trata de explicarse el porqué. Son pocas las respuestas que tiene el porqué de esa contradicción. Hay un momento en el que Ramón Fernández se muestra atraído por los comunistas, por ejemplo, por la revolución soviética, una especie de atracción, digamos, romántica, como la que podía haber tenido André Gide también. Y de pronto esa atracción, digamos, hacia la izquierda, una izquierda que se resumía en simpatías por el Partido Comunista, de pronto, con la ocupación alemana de Francia, se va hacia el otro lado, ¿no? Se va hacia el otro lado en una simpatía explícita y activa hacia el nazismo. Sin embargo, yo creo que hay una especie de orgullo en la manera como usted cita gran parte de los artículos y de las colaboraciones que tenía su padre en publicaciones como la Nouvelle Revue Française, como la revista Marianne, que fueron fundamentales además en la educación sentimental de esa generación. Yo diría que es un libro de gran admiración que trata de llenar el vacío. Digamos que esos son los antecedentes, pero lo que me pregunto es cómo esa memoria del primer mexicano, del primer diplomático, el primer Ramón Fernández que llega a Francia, ¿cómo se pierde? Hasta el punto de que usted no opta por la curiosidad hacia la cultura española o latinoamericana, sino hacia la cultura italiana. Y podemos entrar en otro de los puntos que me interesan, esa pasión inicial y temprana suya por la cultura italiana.
Ça marche pas.
Parece que hay problemas con la traducción.
Me demandé por qué me suis intéressé à l'Italie plutôt.
Sí, pero yo sé de me expliquer pourquoi vous vous sentez pas attiré pour la culture mexicaine de,
oui, bon,
de votre grand-père et de votre famille.
Déjà, mon père qui était mon grand-père était mexicain. Hein. Il était diplomate à Paris, jeune diplomate à Paris dans les années 1890, et il a épousé ma grand-mère française. Et ce grand-père est mort très jeune en essayant de dompter un cheval sauvage au Mexique. Et ma grand-mère est revenue avec son fils, mon père, qui avait 11 ans à l'époque. Elle est revenue en France du Mexique. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que ça remonte tellement loin, elle ne m'a jamais raconté. Je crois qu'elle a rompu avec sa belle famille mexicaine. Est-ce que c'est des histoires d'héritage? Je ne sais pas. Enfin, et elle ne parlait jamais du Mexique, et son fils, mon père, ne s'est jamais intéressé au Mexique. Et l'écrivain Alfonso Reyes, le seul qu'il connaissait, lui reprochait. Il y a une lettre de lui où il dit « Pourquoi toi, avec ta notoriété de critique, tu ne t'intéresses pas à notre littérature mexicaine, à ta littérature mexicaine ?» Et il n'a pas fait un seul article sur un Mexicain. C'est ça, c'est un mystère. Il y a une espèce de blackout, de veto, sur ce, alors qu'il était à moitié Mexicain quand même.
Vous n'avez pas vécu une espèce de chaîne culturelle qui vous conduit aux traditions mexicaines, non ?
Non. Alors moi, c'est la partie mexicaine est très forte en moi, je le sens. C'est une... Alors, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était beaucoup trop loin, le Mexique. Mais quand j'ai découvert Naples et la Sicile, ça a été mon Mexique, si vous voulez, parce que moi, j'adore l'Italie, j'ai découvert très jeune, et l'Italie du Sud, qui a été longtemps espagnole, comme le Mexique, il y a des points très communs entre Naples, Palerme et Mexico, que j'ai connus après, c'est-à-dire le baroque, la pompe, le faste, les palais. C'était ma façon de me mexicaniser, en quelque sorte.
Mais si vous avez été élevé dans une culture si forte comme la culture française, tout à coup, vous vous sentez attiré pour la culture italienne. Qu'est-ce qu'il y a de mystère dans ce choix ?
Ah ben, l'Italie, non. L'Italie, c'était un choix, un coup de cœur. J'ai fait un voyage à 20 ans et j'ai tellement aimé ce pays que j'ai décidé d'apprendre l'italien, d'en faire mon métier. Je l'ai enseigné. J'ai vécu en Italie la moitié de ma vie. J'ai eu une maison en Sicile pendant 20 ans. C'est vraiment là où je me sens vraiment heureux. L'Italie du Sud, hein, surtout. Oui. C'est-à-dire Naples et la Sicile.
Vous avez été si heureux que, quelque part, vous avez dit que vous aimez tellement la culture italienne et que vous n'aimez pas tellement la culture française.
Non, c'est vrai, je préfère. Hein?
Et ça s'explique comment ?
Mais je n'ai pas
la... français ici.
Parce que j'étais malheureux en France, toujours, tandis qu'en Italie, j'étais heureux. Et je crois que la patrie de chacun, c'est là où il se sent heureux. Peu importe que ce soit la vraie patrie ou la patrie d'adoption.
Entramos, no ha sido posible la traducción simultánea, ¿no?
No, ça marche pas.
Sí. L'Italie, c'est si important pour les jeunes écrivains que vous commencez pour écrire des romans qui se passent en Italie.
Oui, ben, la moitié de mes romans se passent en Italie, oui.
Mais qu'est-ce qu'il y a au fond dans ces cultures ? Il y a certaines sensualités qui n'existent pas.
Voilà.
La manque de rationalité française.
Voilà. La France, c'est quand même un pays que j'admire beaucoup, bien sûr, mais la culture française est quand même, dans l'ensemble, hein, classique, puritaine même, économe. C'est Racine, c'est Corneille, c'est Valéry, Gide. Ce sont une culture de réserve, de très belle, mais... Moi, j'étais un peu à l'étroit, parce que mon côté mexicain baroque ne trouvait pas sa nourriture dans cette. Tandis qu'en Italie, qui est justement beaucoup plus baroque et beaucoup plus proche de l'Espagne, enfin par certains côtés, là, je me suis trouvé chez moi tout de suite.
Mais quand même, vous faites un choix aussi classique.
Oui, mais l'Italie, bon, il y a des classiques, mais L'Italie du Sud, encore une fois, c'est vraiment baroque. Hein. C'est la même culture de fantaisie, de faire des dettes, par exemple, de transgresser la raison, de croire. Le réalisme magique là, que la littérature latino-américaine a rendu célèbre, eh bien, on le trouve déjà à Naples. La croyance, dans des choses complètement irrationnelles, c'est tout à fait... moi, je ne connaissais pas du tout la littérature latino-américaine à cette époque, mais maintenant, je comprends que c'est ça que j'ai retrouvé. Et quand je me suis mis à lire alors, les latino-américains, les Carpentier, ou Garcia Marquez, ou Vargas Llosa, ou Sabato, et d'autres, enfin, c'était aussi un peu le monde auquel j'aspirais vaguement.
Oui, oui, oui. Bon, c'est bien curieux parce que votre premier roman est de son important, Porporino,
oui.
Ou Les Mystères de Naples.
Oui, ça.
Et vous commencez vraiment
oui.
Un chemin d'écrivain consistant, de certaine façon classique, qui refuse les expériences. Par exemple, du nouveau roman
Ah, ça, j'ai horreur du nouveau roman. J'ai toujours eu horreur, qui est contemporain de moi. Et ça me paraît, pour moi, la fin du roman, la négation de la romanesque, puisque le nouveau roman proclame qu'il n'y a ni sujet, ni personnage, ni histoire, ni psychologie, ni rien, que de l'écriture, c'est comme ça. Ça intéresse quelques spécialistes, il y a quelques réussites, peu, mais enfin quelques-unes, disons, mais ça n'a pu intéresser que des gens qui sont déjà totalement, en fait, presque des spécialistes de littérature. Et ça a détourné beaucoup de gens du roman français. L'espèce de notoriété qu'a eu le nouveau roman à une certaine époque.
Dans certaines mesures, on pourrait dire, et vous avez choisi la tradition classique.
Oui, enfin, tiens, moi je suis partagé que moi-même, j'ai reçu une éducation classique, parce que ma mère puritaine, qui était auvergnate, l'Auvergne en France, c'est la région la plus sévère, hein, c'est la région des protestants, des maquisards, des camisards, vous savez, ceux qui ont résisté à l'Église catholique, ce sont des gens austères, comme ça, rigoureux, avec un sens du devoir, de la discipline. Donc ça, c'est une partie que j'aime de moi, et l'autre partie, c'est la partie paternelle, la partie comme ça, imaginative, et Porporino, c'est l'histoire d'un castrat à Naples. Déjà, le sujet est baroque. Ces castrats, ces garçons qu'on châtrait pour regarder leur voix de soprano.
Vous venez de parler de votre mère.
Oui.
Et quel est le rôle qu'elle joue dans votre vie?
Le
rôle qu'il joue votre père, l'image de votre père. Mais,
oui.
mais la mère, elle apparaît comme une figure plus puissante.
Oui, mais la mère, d'abord, elle m'a élevé, évidemment, et c'est une personne remarquable que j'admirais beaucoup, mais que je craignais, elle m'impressionnait. Et elle est morte très âgée, donc j'ai bien connue, mais j'ai eu un rapport très difficile avec elle, parce qu'elle m'étouffait en même temps. Enfin, toutes les mères étouffent toujours un peu, non?
Ce qui étouffe, c'est l'amour de la mère.
Oui, l'amour, hein? Mais trop d'amour, ça étouffe.
Si, mais vous trouvez l'image du père puissant, mais aussi étouffant. Ce père absent de la famille.
Oui, mais il n'est pas étouffant, il est fascinant, c'est autre chose. Enfin, c'est peut-être une autre façon d'étouffer, mais d'abord, il est absent, donc c'est un mythe, quelqu'un qui est là. C'est pas. Tandis que l'autre, la mère, étouffait matériellement, je veux dire. Elle contrôlait les horaires, les devoirs, les copies, le lycée, tout ça, c'était. Tout ce qui fait la vie d'un écolier, d'un lycéen, d'ailleurs, il faut bien qu'il travaille. Mais moi, j'ai fait de très longues études, je fais l'école normale, l'agrégation, donc tout ça sous l'œil sévère d'une mère intransigeante.
Disons que les deux traditions de la littérature française au XXe siècle, les avant-gardes et un certain chemin classique.
Oui.
Vous avez finalement choisi les chemins classiques.
Ah oui, moi j'aime pas du tout, même le mot d'avant-garde me révulse. C'est un mot militaire, l'avant-garde. Hein. C'est vraiment un régiment qui part. Je trouve que le vrai art n'est ni d'avant ni d'arrière-garde. Il est ce qu'il est. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, Proust, c'est pas d'avant-garde. Ouais. C'est la réussite totale. Les avant-gardes, c'est souvent beaucoup de bruit pour se faire valoir, beaucoup de... C'est un moyen de publicitaire, souvent.
Ça explique peut-être que depuis quelques années, et beaucoup de livres, vous faites l'entrée à l'Académie française. Et on n'imagine pas un écrivain d'avant-garde des années 50 à l'Académie française. Peut-être
bah si, si, le pape de nouveau roman a fini à l'Académie française, Robe Grier. C'est le principal. Oui, il a été élu.
Vous l'avez à côté de vous.
Non, mais il est mort, madame.
Il avait déjà mort.
Oui, non, mais il a été élu il y a une dizaine d'années. Puis il est mort très, très peu de temps après, mais enfin, il a fini à l'Académie française. Il était. Et Cocteau a fini. Je veux dire, vous savez, les avant-gardes, c'est souvent les jeunes, et puis ils passent de l'avant-garde à une sorte de reconnaissance officielle quand ils ont du talent.
Bon, je voudrais tomber dans ce moment que vous avez qualifié d'une époque presque perdue de vos premiers romans. Et perdue dans quelle mesure? Vous avez honte de ces trois premiers livres?
Non, c'est pas ça. Mais non, perdue parce que moi j'ai publié mes premiers romans qui n'avaient aucune presse parce que Robe Grier était très fort. Il avait absolument terrorisé toute la presse parisienne. Et les journaux importants comme Le Monde ne parlaient que des romans issus du nouveau roman. Les autres, rien, pas de presse. Donc c'était difficile pour un jeune écrivain de se faire un chemin en dehors du nouveau roman qui était devenu un académisme beaucoup plus fort que ce qu'on appelle l'académie.
J'ai lu plusieurs articles sur vous et on parle de la psychobiographie. Je n'ai pas entendu exactement qu'est-ce que ça signifie, la psychobiographie.
La psychobiographie, c'est une méthode critique qui consiste à mettre en rapport la vie et l'œuvre d'un écrivain et en donnant beaucoup d'importance dans les deux, à la fois pour l'œuvre et pour la vie, à l'inconscient, aux motivations inconscientes. C'est-à-dire que quand on vit, on croit qu'on choisit, très souvent... on est choisi par son inconscient. De même, les livres qu'on écrit, on a un projet, on a un dessin, mais le résultat échappe en partie parce que c'est l'inconscient, quelque chose qu'on ne connaît pas soi-même, mais c'est mis dans le livre, dans l'écriture.
C'est le moment où vous êtes attiré pour la psychanalyse.
Oui, maintenant que je rejette, mais enfin, j'ai été attiré à un moment, oui.
Mais ça a duré longtemps, non?
Pas tellement, non. Non.
Et qu'est-ce que vous avez découvert à la psychanalyse qui a bougé de votre refus?
Alors, ce que j'ai aimé dans la psychanalyse, c'est justement l'importance de donner à la conscience. Ça, je crois qu'on ne peut pas discuter. Freud a insisté là-dessus. Les rêves, l'inconscient, tout ça. Mais c'est surtout sur la question de l'homosexualité, moi, que ça m'a révolté, parce que Freud, c'était quand même un grand bourgeois de Vienne, et pour lui, il n'y a pas de vie accomplie sans le mariage monogamique et reproductif. Et il parle des homosexuels comme de gens handicapés, incomplets, qui sont arrêtés en route de l'évolution, de l'instinct, comme il disait, et ne sont pas arrivés jusqu'à la splendeur du mariage. Alors moi, qui suis homosexuel, ça m'a évidemment, quand j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, je trouve ça inadmissible. C'est une vision vraiment de grands bourgeois, complètement périmés.
Mais à partir de quel moment vous avez dit il faut qu'il assume ma condition d'homosexuel.
Oui, mais...
Parce que les trois premiers romans,
oui.
vous avez parlé des romans d'une époque au placard, en el closet, de una experiencia. De
oui, parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, c'était épouvantable d'être homosexuel. Maintenant, on a fait un progrès gigantesque. Aujourd'hui, nous sommes à des années-lumière, des années 50, 60. Là, c'était clandestin, c'était, on était des marginaux, des, on ne pouvait parler à personne. Je n'ai jamais pu parler de ce qui me tourmentait, ni à mes parents, bien sûr, ni à ma mère, alors elle serait morte tout de suite, ni à mes professeurs, ni à mes camarades, même, il y en avait comme moi, forcément, mais chacun était tellement honteux d'être ce qu'il était, il y avait une telle poids de culpabilité qui pesait là-dessus que... Et mes romans, au lieu d'aborder franchement le problème, ne pouvaient pas. Donc c'est alambiqué, ils ne sont pas bons ces romans parce qu'ils manquent de courage. Mais je ne pouvais pas avoir de courage, on ne pouvait pas. Pour avoir du courage, il faut quand même se sentir un peu appuyé par quelque chose, par quelqu'un. Et... Alors la coupure, si vous voulez, ça a été, en France, c'était mai 68. Ça a été vraiment c'est une date symbolique, hein, une date charnière entre la, pour les homosexuels, j'entends, entre l'époque de la honte, de la clandestinité et le début de la libération.
Mais 68, ça représentait la coupure.
Ah oui, mais pour tous les mœurs, hein, même hétérosexuels, je veux dire, il y a une la liberté s'est installée, enfin, a commencé à s'installer. Il y a eu tout d'un coup les vieux tabous. Judéo-chrétiens ont sauté comme des bouchons de champagne.
C'était interdit d'interdire.
Oui. Alors là, ça a été formidable. Donc ça m'a libéré. Mon premier roman que je reconnais pour valable, c'est pour Porrino, qui date de 1974, donc qui a été mûri pendant les années. Et là, où c'est beaucoup plus... Ça transparaît nettement, je veux dire.
Bon, vous étiez âgé de plus de 40 ans.
Oui, oui, mais j'ai mis très longtemps à me reconnaître, à m'avouer comme tel, parce que la pression, on n'a pas idée aujourd'hui ce que c'était l'espèce de ghetto où étaient les homosexuels. C'était une chose épouvantable, vraiment. Quand j'y pense, ça me paraît... moi, j'ai souffert, c'est une des racines aussi de mon besoin d'écrire, ça. C'est de... Puisque je n'avais pas ma place dans le monde, c'est écrire des livres qui me créaient un espace à moi, un univers à moi.
Oui, mais c'est bien curieux parce qu'il y avait quand même une tradition au monde littéraire des homosexuels.
Oui, mais...
Les Proust, les Gide, etc., etc.
Oui, mais c'était pas... Bien sûr, mais c'était pas... Je lisais ces auteurs, bien sûr, mais c'était pas des modèles, je veux dire. Parce que Gide, c'est très particulier... Et Proust encore plus, je veux dire. Et puis d'ailleurs, ils avaient une vision contradictoire, hein, parce que Proust avait une vision horrible de l'homosexualité. C'est un enfer pour lui. Il décrit son personnage Charlus, là, à la fin de sa vie, qui se fait fouetter, qui se fait enchaîner. C'était une vision sadomasochiste qui n'était pas très attrayante, franchement. Et Gide, c'était au contraire une vision idyllique, un peu trop sucrée, un petit peu comme ça. Et puis, ce n'était pas des modèles, c'était quelque chose qui n'était pas de notre monde pour nous. Par exemple, pour faire un exemple, à mon époque, quand j'étais jeune, il y avait deux hommes vivant ensemble, ça n'existait pas, qui est le modèle même. Maintenant, il y a le mariage, vous voyez, le bond en avant qui a été fait en 50 ans.
Et vous avez marié ?
Non. Moi, je suis contre le mariage en général, mais je suis pour la possibilité de se marier. J'ai milité pour le mariage gay en France, là. J'ai défilé dans les rues au mois de décembre.
Non, mais avant,
dernier.
Vous savez marier.
Ah, je me suis marié. Oui, je me suis marié avec une femme, oui. Hein? Parce que justement, moi, je voulais construire ma vie. À l'époque, l'homosexualité possible, c'est uniquement la drague un peu sordide, un peu. Et ça, c'est pas du tout, c'est pas mon genre. Moi, je suis pas dragueur. Je suis monogamique. Ma façon.
Conservateur.
Oui, je passe conservateur. C'est plus difficile d'être monogamique que dragueur. Hein, alors, je ne sais pas. Donc, j'ai épousé une femme parce que d'abord, je l'aimais aussi. Je suis le contraire du misogyne.
Hein. Vous avez eu un enfant ?
J'ai deux enfants. J'aimais cette femme. Elle connaissait mes penchants. Je ne l'ai pas du tout trompée. Hein. D'ailleurs, j'étais même fidèle pendant 10 ans. J'ai eu deux enfants et au bout de 10 ans, ben, j'ai senti qu'il manquait quelque chose quand même. Je ne pouvais pas continuer, que ma vie serait ratée si je restais dans ce mariage. Donc nous nous sommes séparés, bien d'ailleurs, et après j'ai commencé, alors, après 68, tout ça justement, alors qu'il devenait possible de vivre avec un homme, j'ai commencé ma vraie vie.
Vous venez de parler de certaines conditions conservatrices, mais vous écrivez un roman inspiré à la vie de Pier Paolo Pasolini, dans La main de l'ange, où vous faites le choix d'une vie complètement opposée à votre vie.
Oui, oui.
Parce que lui, Pasolini, il était dragueur, était sordide.
Oui, oui.
Et sa vie personnelle, c'était une espèce de purgatoire,
oui,
de sa conscience homosexuelle. À quoi ce choix-là?
Non, parce que moi, d'abord, j'avais connu Pasolini à Rome, que j'ai vécu à Rome beaucoup. Et je fréquentais le milieu des écrivains, Moravia, Pasolini, Elsa Morante, qui étaient sauvages comme ça. Et puis, je connaissais ses films, ses livres. Et puis, quand j'ai appris sa mort, c'était en 75, c'était le 2 novembre 75, j'étais à Paris, et un journaliste italien que je connaissais, le Paese Sera, me téléphone, il me dit: tu sais, on a découvert le corps de Pasolini sur une plage. Qu'est-ce que tu as à dire à mon journal? On ne savait pas du tout les circonstances de cette mort. Et j'ai répondu, ça a été imprimé: ça ne m'étonne pas. Il a été tué par un gigolo de rencontre. Ça aurait pu lui arriver 10 ans après ou 10 ans avant. Et en effet, quelques temps après, on a découvert le meurtrier. Parce que ce qui était fascinant chez Pasolini, ça me fascinait, c'était pas du tout ma vie, c'est pas parce que ça me ressemblait, au contraire, c'est le contraire, mais c'est quelqu'un qui, lui, alors tous les soirs, il allait à la gare de Rome, à Termini, qui était, où il y a les prostituées dangereux, ceux qui volent, ceux qui tuent au besoin, et donc il vivait très dangereusement, et ça a fini comme ça devait finir.
Il y a certains qui parlent des suicides.
C'est une forme, c'est
une
provocation de la mort, parce qu'il savait très bien que c'est pas un vrai, parce qu'il est très vital, et c'est pas un type à se suicider, hein, c'était un type très vital, mais il y avait une course vers la mort quand même, comme une tragédie grecque, hein, comme Oedipe, comme Électre, qui dont la vie nécessite une espèce de flamboiement, une apocalypse comme ça, flamboyante, pour donner un sens à cette vie.
À l'époque, ces phénomènes parlaient d'un crime politique.
Oui, mais ça, c'est la pudibonderie des amis. Laura Betti, par exemple, qui voulait absolument que... Elle prétendait qu'il n'était pas homosexuel, d'abord. Moi, je l'ai connue, j'ai parlé avec elle. Et ensuite, elle disait qu'il voulait l'épouser, elle. C'est complètement... Elle était folle. Et enfin, donc, elle a monté cette idée que c'était un complot fasciste pour se débarrasser de Pasolini, qui était dérangeant pour le pouvoir, mais enfin, il n'y avait pas de quoi le faire assassiner quand même.
Ouais, ouais.
Il n'y a jamais eu de preuve. Alors que la mort, comme je l'ai décrit moi par un gigolo, c'était dans la ligne. D'ailleurs, il avait décrit cette mort dans plusieurs de ses livres. J'ai trouvé un poster d'un de ses films, enfin un film fait par Sergio Citti, son ami, qui s'appelait Ostia.
Ouais.
Ostia, c'est la plage où Pasolini a été tué. Et dans ce film, on voyait un homme tué à coups de bâton sur une plage. Donc il avait prévu sa mort, en quelque sorte. Il avait eu la prémonition de sa mort.
À quoi cette préférence pour des héros est tragique?
Ah, ben ça, c'est le romancier. Vous savez, les romans, on ne peut pas raconter une petite vie, petite bourgeoise. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est intéressant. C'est un héros. J'ai pris Caravage comme héros aussi.
Ouais, ouais.
Caravage, le peintre qui a fini exactement comme Pasolini 400 ans avant, qui a été tué sur une plage, pas très loin d'Ostie d'ailleurs. Ou bien Tchaïkovski, qui a été condamné à se tuer pour une affaire de mœurs par le tsar.
Et me gustaría llegar un momento, je voudrais arriver à ce moment où vous êtes élu membre de l'Académie française. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représente pour un écrivain avec une trajectoire pas si conservatrice? Quelles sont les circonstances qui vous font membre de, de l'Académie française?
Moi, j'y pensais jamais. Hein. Ce n'était pas du tout dans mes programmes. Je n'avais rien ni pour ni contre. C'était... Et puis, j'ai beaucoup d'amis d'enfance même qui sont, comme Michel Serres, comme Florence Delay, qui m'ont dit, mais viens, c'est un club où on s'amuse. Bon. Et alors, je me suis dit, il y a quelques années, comme ça, au fond, c'est une... J'aurais une double raison de vouloir y entrer. C'est un, d'y parler de mon père, ce que j'ai fait dans mon discours de réception. J'ai dit que lui aurait mérité sa place bien plus que moi. Et d'autre part, je suis le premier homosexuel déclaré à avoir été élu. Il y en a d'autres, bien sûr, comme partout. Il y a le même pourcentage, mais les autres sont cachés. Jamais ils l'ont dit nulle part. Moi, j'ai été élu en tant comme... Enfin, d'ailleurs, j'ai eu tous les homophobes contre moi.
Je vais à l'interview à YouTube avec Bernard Pivot, où vous parlez que vous étiez le premier homosexuel à l'Académie française.
Oui, déclaré.
Déclaré. Et vous parlez d'un conseil que vous a fait Giscard d'Estaing.
Ah oui, hein? Giscard d'Estaing, qui est membre de l'Académie, l'ancien président de la République, et qui m'a beaucoup soutenu dans ma campagne. Et quand j'étais reçu, il m'a dit, je suis très très heureux, mais attention, pas trop de prosélytisme. Ça, c'est drôle.
Oui, mais vous n'avez pas suivi les conseils de l'ancien président.
Je n'ai pas suivi les conseils, mais il a beaucoup d'humour. Hein, il a beaucoup de son côté comme ça, il a beaucoup d'humour. Mais il y a d'autres homophobes qui ont dit, quand j'étais élu, « Oh, je croyais qu'il y en avait assez comme ça, ou bien... » Je croyais que le quota était rempli. Enfin, bon, ça quand même, j'étais élu quand même.
Mais quelques ans plus tard, vous savez, vous êtes obligé de faire prosélytisme homosexuel. Vous avez été à la tête des manifestations.
Oui, oui. J'ai milité, oui.
Vous avez milité, vous militez encore.
Oui, bien sûr.
Quels sont ces débats à l'intérieur? Parce que ce sont pas ces débats ne se donnent pas en France. Seulement en Europe,
partout.
En Amérique latine, un peu partout.
Oui, oui.
Et quelle est l'origine de ce débat? Et quelles sont les conquêtes que vous avez eues dans cette dernière année?
D'abord, j'ai milité pour le PACS il y a 15 ans, l'Union civile. Je crois qu'il existe en Colombie.
Oui.
Mais j'ai écrit un livre même qui s'appelle Le loup et le chien pour défendre cette idée du Pax. Et puis récemment, donc, quand il y a eu cette levée de boucliers en France contre le mariage, hein, la moitié de la... Il y a eu, comme l'affaire Dreyfus, presque, il y a eu deux Frances qui se sont affrontées. D'une part, la droite, les églises, et puis l'autre part, les partisans du mariage gay. Moi, j'ai écrit des tribunes dans Le Monde, j'ai défilé, enfin, parce que je trouve ça très important. Non pas que je trouve que le mariage soit tellement une belle chose, mais je trouve que la possibilité de se marier doit être donnée à tous. Voilà. Et d'adopter des enfants. Parce que
d'adopter des enfants.
Les homosexuels peuvent être femmes ou hommes d'excellents mères ou pères. Hein, parce que le désir maternel ou paternel n'a rien à voir avec le désir sexuel. On peut très bien aimer quelqu'un de son sexe, et en même temps, est tout à fait capable d'élever, d'aimer des enfants. Moi, je connais... Il y a 50 000 enfants en France. Rien qu'en France, il y a 50 000 enfants de couples homoparentaux et qui sont, en général, très heureux parce que ce genre de parents choisissent les enfants. Ils choisissent d'élever des enfants. Ils ne les subissent pas. Et ils sont très attentifs. En plus, ils savent qu'on les observe. Et ils veulent être exemplaires.
Il y a un côté très intéressant, c'est le côté voyageur.
Oui.
Vous avez voyagé
un peu partout,
et vous avez écrit des livres et des voyages, la Russie, un peu partout.
La Bolivie.
La Bolivie.
J'ai un livre sur la Bolivie.
Aussi.
Le Brésil. Oui, je ne connaissais pas la Colombie, hein, heureusement que cette lacune est réparée. mais je connais bien l'Argentine, le Brésil, le Pérou, la Bolivie, le Guatemala, Haïti.
Oui, j'étais très étonné quand vous m'avez parlé de ce pays que vous avez visité. Et le dernier, c'est le Mexique. On dirait que le Mexique pourrait être le pays le plus attirant.
Oui, ben, là, j'ai un blocage. Là. Hein? Je suis allé deux fois au Mexique, j'ai trouvé magnifique, mais j'ai jamais écrit une ligne sur le Mexique. C'est comme mon père, je suis bloqué, je crois. Que, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça arrivera un jour.
Alors, encore Freud, encore oui. La psychanalyse.
Encore la psychanalyse. Là, oui. Là, oui, pour ça, oui.
Et il y a un dictionnaire amoureux, le dictionnaire amoureux de Stendhal.
Oui.
Vous savez, Stendhal a écrit un des livres sur l'amour, de l'amour, exactement, des livres oui. Plus fascinants qu'on peut lire. Après, au XXe siècle, Denis de Rougemont a écrit L'amour en Occident. Oui. Et qu'est-ce que ça représente le dictionnaire amoureux.
C'est vrai, c'est moi qui ai eu l'idée de la collection. C'est moi qui, le premier, ai donné au directeur, Jean-Claude Simoen, cette idée. Je trouve que c'est une formule très, très bonne, parce qu'un dictionnaire, c'est quelque chose d'ennuyeux, de scolaire, de rébarbatif. Mais si on met amoureux à côté, on voit qu'il va s'agir d'un dictionnaire très subjectif, où on ne parlera que de ce qu'on aime. Alors, un livre sur Stendhal, il y a des milliers de livres sur Stendhal. J'allais pas recommencer à écrire. Il faut tout dire. Tandis que dictionnaire amoureux, vous prenez une idée, un personnage, une ville, pour faire une entrée, et on accroche comme ça, et on fait un développement, mais ce sont l'ordre alphabétique.
Quels sont les personnages stendhalien, vous avez trouvé vraiment l'essence de l'amour?
Oh ben, il y a Julien Sorel, évidemment, il y a Fabrice Del Dongo, tous les personnages de Stendhal sont mus par l'amour, comme lui-même. Mais l'avantage du dictionnaire, par exemple, j'ai fait une entrée épinard. Oui, parce qu'il y a une phrase de Stendhal où il dit « J'ai eu deux goûts constants dans ma vie, Saint-Simon et les épinards. » Oui, alors, dans un gros livre, on ne pourrait pas parler de ça. Tandis que là, on fait 10 lignes sur les épinards, et c'est très amusant comme divertissement.
Il y a pas mal de critiques qui parlent de romans de Stendhal. Ils parlent d'une œuvre pas dominée par la perfection. Il y a certaines imperfections, mais bien. Aussi le poids de l'expérience.
Oui.
C'est Stendhal qui a fait son voyage en Italie.
Oui.
De certaine façon, il a fondé une tradition.
Oui. Enfin, il y avait déjà Chateaubriand avec lui. Il y avait Montaigne déjà. Il y a une tradition du voyage littéraire en France, depuis Montaigne. Chateaubriand, puis Stendhal, puis Gautier, jusqu'à Paul Morand, etc. Stendhal, c'est pas du tout un styliste. C'est pas un styliste. Il répète. Il y a dans une même page, vous avez quatre fois le mot affreux, par exemple. Ça, il écrivait très vite et puis sans se soucier de la perfection. C'est le contraire de Flaubert, par exemple. Mais je l'aime pour sa liberté, son insolence. C'est un des esprits les plus libres qu'on ait connu, je crois.
L'aventure. Et c'est l'aventure qui vous a amené en Italie?
Ben non, ça, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un voyage avec des étudiants. Et puis j'étais ébloui parce que je ne connaissais pas la Méditerranée, je ne connaissais pas le Sud. À Paris, c'est comme une ville froide, il pleut, actuellement il fait zéro, il neige presque. Tout d'un coup, découvrir, c'était au mois d'août, la mer, le bruit de la mer, les odeurs, les parfums. La gentillesse des gens aussi. Les Parisiens sont un peu, ce sont ça, ils sont un peu hargneux. Ils sont, quand vous demandez l'heure, ils font comme ça parce qu'ils ont peur de se faire voler leur portefeuille. Tandis qu'en Italie,
ça c'est les Parisiens, mais il y a aussi le Sud.
Oui, mais moi je connaissais que Paris. Je connaissais que Paris. Tandis qu'en Italie, vous demandez votre chemin, ben, la personne se détourne pour vous accompagner, comme ça. Quelqu'un qu'on ne reverra jamais. Alors, tout ça, ça m'a tellement touché que j'ai décidé d'aller vivre en Italie.
Bon, bueno, creo que podríamos dar por terminada provisionalmente esta conversación. Y alguna pregunta o pregunta.
Merci.
Cinco minutos o cinco preguntas. Bien. Bueno, tendremos tiempo para unas tres preguntas del público. Hay algunos de los temas que se han quedado en el aire, pero yo creo que hay los suficientes temas como para preguntarle a Dominique Fernández. Bueno, yo quisiera estimular, hay dos o tres puntos.
Je souhaite vous poser une question. J'attends toujours avec énormément d'impatience vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de quel sera le prochain thème le thème de votre prochain livre? Vous avez déjà des idées en tête?
Il y a beaucoup d'écho, on ne s'alcance pas à écouter.
Bon, je vais voir. Vous m'entendez mieux?
Oui, là c'est mieux, oui.
Ok, très bien. Je disais que j'attends toujours avec impatience vos œuvres, et l'une des dernières que j'ai lues, c'était La course à l'abîme. Et oui. J'aimerais bien savoir, vous avez déjà des idées concernant votre prochain livre?
Oui, mais le dernier vient de paraître il y a 8 jours à Paris. Il s'appelle « On a sauvé le monde ». Il vient de paraître, c'est un gros livre, un gros roman de 600 pages,
okay.
Qui se passe entre Rome et Moscou en 1932. C'est l'histoire d'un Italien qui devient espion communiste et qui va à Moscou.
Ah, très bien, merci beaucoup. Je ne le savais pas.
Oui, ben, c'est tout récent. Hein.
Vous m'entendez?
Oui.
Ou sans micro, c'est mieux. Si, ça marche. Moi, c'est un peu le pendant à la question du monsieur, parce que je suis venue grâce à une amie. En réalité, je n'ai jamais lu de livre de vous et j'ai trouvé cette heure tellement fascinante que ma question, c'est tout simplement par quel livre conseillerez-vous à quelqu'un qui ne vous a jamais lu de commencer?
Qu'est-ce qu'elle a dit là? C'est difficile.
Non, vous ne m'avez pas entendu?
Non, mais ça vibre, je ne sais pas. Ça
vibre, le micro, si se le retire un peu plus quand on
parle. Sans micro, peut-être?
Parler plus loin, peut-être, je ne sais pas.
Comme ça?
Oui, ce sera mieux.
Là, à cette distance?
Ah, voilà, là, c'est mieux.
Bien. Moi, je disais que ma question était un peu le pendant de la question du monsieur. Je suis venue grâce à une amie qui est une admiratrice de vos œuvres, et moi, je n'ai encore rien lu. Mais après 7 heures à vous écouter tous les deux, que j'ai trouvé fascinante, ma question serait, quel livre conseillez-vous comme première lecture pour quelqu'un de néophyte qui ne vous a pas encore lu?
Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut lire d'abord?
Voilà, qu'est-ce que vous conseillerez et pour quelle raison? Par quel livre commencer?
Je ne connais pas vos goûts, c'est ça, ça dépend. Je ne sais pas.
Des bons livres, des
hein?
bons livres.
Oui, j'entends bien, mais si vous voulez un roman, je vous conseillerais La course à l'abîme, par exemple, qui est le plus... Mais il y a Porporino, La course à l'abîme, Tribunal d'honneur, et le dernier, c'est ceux que je préfère, mais ce n'est pas forcément les meilleurs, je ne sais pas.
Alors, je vous propose dans la main de l'ange.
Dans la main de l'ange, oui. Et si vous aimez les voyages, alors il y a Mer Méditerranée, qui était mon premier livre sur l'Italie, Madre Mediterranea. Et puis, j'ai écrit un livre sur le Transsibérien, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait tout le voyage, le train de Moscou à Vladivostok, c'est 10 000 kilomètres à travers la Sibérie. Et j'ai fait un, j'ai raconté ce voyage et je tiens beaucoup à ce livre.
Bueno, una última pregunta. Bueno, pues muchas gracias a usted. Por favor.
Donc.
Oui. Attendez un moment, s'il vous plaît.
Là, vous m'entendez là?
Oui.
Oui.
J'aimerais vous demander en quoi consiste la caractéristique de votre littérature, ou comment vous la décririez, quelle serait la caractéristique chez vous comme écrivain? C'est compliqué.
La caractéristique de mes livres?
Oui, de vous comme écrivain.
C'est difficile, moi j'écris plus de 60 livres, je crois, et puis chacun a correspondu à une nécessité, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de livre pour faire un livre, j'avais besoin d'écrire le livre, donc chacun pour moi est aussi important, même s'il est raté, parce que ça correspond à une étape de ma vie. Alors le principe moteur, si vous voulez, c'est très difficile à dire. C'est aux autres de le dire, c'est aux lecteurs, parce que moi j'écris, chaque livre pour moi, quand je l'écris, c'est un absolu, c'est un tout absolu, et je m'y engage tout entier, et donc le lien, je ne le vois pas avec les autres livres. Les autres peuvent le voir, et moi, je ne sais pas, au fond.
Oui. Vous m'entendez, là aussi, je suppose ? Vous avez parlé dans votre conversation de psychanalyse, d'amour. Ce sont des moteurs évidents pour écrire. Vous avez donc évoqué un autre thème, l'homosexualité. Est-ce que dans votre œuvre, vous parlez à un moment de cette chose qui divise, qui est la partie de l'inné ou de l'acquis ?
La partie de...
De l'inné et de l'acquis dans l'homosexualité. Est-ce que ça vient, ça existait au départ? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a des facteurs qui le développent?
Alors, j'ai écrit un roman qui était mon coming out, comme on dit, qui était L'étoile rose. C'est ça qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque. C'était en 78. L'étoile rose, c'est ce que les nazis mettaient dans les camps sur les homosexuels. Il y avait les jaunes pour les juifs, les rouges pour les communistes, les verts pour les tziganes et les roses pour les homosexuels. Et dans ce livre, donc, je raconte ma vie, enfin, un peu romancée, bien sûr, et je dis, là, je m'en prends à Freud, justement, et à la psychanalyse, qui cherche toujours à expliquer l'homosexuel. Et c'est ça que je récuse. Pourquoi est-ce qu'il faudrait expliquer aussi les hétérosexuels, alors ? Expliquons tout le monde ou n'expliquons personne. Moi, je crois que l'homosexualité est dans la nature, et d'ailleurs Goethe le disait déjà, elle est dans la nature, c'est une modalité de la nature qui touche à peu près, on pense, entre 5% de la population, c'est une minorité quand même importante, hein. En France, on compte 3 ou 4 millions quand même d'homosexuels, avoués ou cachés. Et donc, c'est une modalité de la nature. De même qu'il y a les roux, par exemple, il y a les bruns, les blonds, puis il y a les roux qui sont en minorité. Mais il n'y a pas à expliquer. Moi, je pense que c'est totalement inné. Moi, je sais qu'à l'âge de 12 ans, avant toute sexualité, j'avais un livre de reproduction de statues grecques. Et je regardais les Apollons, les Ganymèdes, jamais les Vénus. Ça ne m'intéressait pas. Et je me souviens aussi que j'avais ce livre ouvert dans le tiroir de mon bureau sur les Apollons, et quand ma mère entrait, je fermais le tiroir. Donc, j'avais le sentiment qu'il est coupable déjà de regarder des Apollons.
C'est là où...
Et là, j'ai compris, je connaissais pas le mot homosexuel, je ne savais rien de tout ça, mais j'ai compris que j'étais différent, que j'avais un goût qui m'était déjà, qui me rendait suspecte aux yeux des gens comme il faut, voilà.
C'est là où a commencé votre vocation classique.
Voilà.
Alors.
Oui, par les Grecs. Alors, j'étais très marqué par la culture grecque, évidemment. Platon, Virgile et latine. Virgile, j'ai beaucoup lu. Et donc, moi, je crois que c'est totalement inné. Hein. C'est inné. C'est un... Et toute la culture occidentale est une espèce de rempart dressé contre l'homosexualité. Parce que jusqu'à une date relativement récente, on ne parlait dans les romans, dans les films, dans les chansons, que d'amour entre hommes et femmes. Hein. C'est maintenant qu'il y a beaucoup de romans et de films à thématique homosexuelle, mais jusqu'à 20 ans, 30 ans, c'était absent. Donc il y avait une espèce de refus, de refoulement de la question. Mais n'empêche que c'est une chose totalement innée et qui ne laisse personne en plus. Hein, c'est pour ça que l'acharnement des gens, des homophobes, est une chose absurde, parce que s'il n'y a pas violence, s'il y a consentement mutuel, je vois pas pourquoi c'est pas aussi légitime que les amours dites hétérosexuelles.
Et bon, Dominique, oui. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et muchas gracias a
ustedes. Merci.